On continue les études ou les messages, si vous voulez, sur l'interprétation. Et donc, on a parlé des grandes lignes de l'inspiration, on a parlé de l'unité des Écritures, la nature prophétique et aussi les distinctions à respecter dans les Écritures. Maintenant, on va passer à l'œuvre même de l'interprétation. Donc, il y a plusieurs points, je vais détailler un peu, c'est pas en fait un message super long, mais quand même c'est très important. Et le point principal, c'est qu'il faut avoir la volonté d'agir. Pourquoi lire la Bible si vous ne voulez rien faire de différent? OK? Donc, interpréter la parole suppose vouloir connaître la volonté de Dieu afin de mettre en pratique cette volonté. Donc, je vais lire Jacques chapitre 1. Et verset 22. Donc, il y a tous les autres versets qui vont avec ça dans le contexte, mais on lit Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bon, c'était écrit à une époque quand la plupart des gens écoutaient et n'était pas tout le monde qui était capable de lire. C'est pour ça qu'il dit « Écoutez », mais c'est la même chose. Si vous lisez la parole, mais vous ne voulez rien faire, vous vous trompez. Parce que Dieu, il nous parle pour faire des changements dans nos vies. N'ayez pas un esprit borné par vos a priori, par vos préjugés. L'attitude correcte va désirer accepter la vérité et d'agir en conséquence. Jésus dit que la parole de Dieu transforme et purifie nos vies. Donc, il dit ça dans Jean chapitre 17, verset 17. Il dit, sanctifie-les par ta parole. Donc, dans sa prière, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, quand on entend la parole, quand on lit la parole, et ça entre dans notre tête et notre cœur, le Saint-Esprit fait les transformations dans nos vies. Prochaine chose. Dans cette idée de vouloir changer, eh bien, soyez humble face à la parole de Dieu. Dieu aime qu'on soit humble devant lui. Puis, cherchez la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide divin. Et nous lisons dans Jean chapitre 16 et verset 13. Jean chapitre 16 et verset 13. Quand le Consolateur sera venu, donc il parle du Saint-Esprit qui est venu à partir du jour de la Pentecôte, Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, autant que le Christ était soumis au Père, le Saint-Esprit aussi est soumis au Père et il nous dit toutes les choses qu'il a fait inspirer dans la parole de Dieu pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Donc, en parlant de la parole, il faut reconnaître l'autorité absolue de la parole de Dieu. C'est principal, c'est à la base. Ce n'est pas moi qui décide ce qui est la vérité, c'est Dieu qui la décide, parce que c'est lui qui est la vérité. Il a révélé ou communiqué la vérité dans sa parole. Et donc, la parole est l'autorité, et j'insiste sur le mot absolu. Aucun ange ou esprit, même professant, prétendant être faussement le Saint-Esprit ou quel autre ange, ne doit prendre autorité sur la parole. Car le Saint-Esprit ne contredira jamais la Trinité dont il fait partie. Dieu est Dieu. Dieu ne peut jamais se contredire. De même, douter la parole de Dieu. Vous lisez quelque chose dans la parole, vous dites, oh, mais ça ne peut pas être vrai. OK? Douter la parole de Dieu revient à ce que Ève a fait dans le jardin d'Éden. Dieu avait parlé, et puis elle a écouté donc le serpent qui a dit, « Ah, Dieu a-t-il vraiment dit cela ?» Elle a commencé à dire, ben, « Peut-être que je me suis trompé, peut-être Dieu n'a pas dit ça. » Et puis, il a tordu sa pensée pour qu'elle puisse par la suite pécher. dont nous lisons dans Galates chapitre 1 et verset 8. Galates chapitre 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème, donc maudite. Anathème, c'est maudite. OK? Donc là, c'est écrit dans le verbe conditionnel, si jamais un esprit ou un ange ou n'importe vous prêche un autre évangile, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a une seule bonne nouvelle, hein, l'évangile de Jésus-Christ. Aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 et 4, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 et 4, nous lisons, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. C'est-à-dire, les gens de Corinthe, ils aimaient bien accepter les mensonges, mais ils étaient réticents à garder la vérité. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand il y a un mensonge qui arrive, il ne faut pas l'embrasser. Il faut dire, mais non, puisque la vérité reste la vérité, toute autre pensée doit être des mensonges. Aussi, soyez honnêtes intellectuellement. Donc, quand vous êtes en train de lire la parole, vous êtes en train de réfléchir, et puis le Saint-Esprit vous montre que votre position chérie est fausse, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, il faut adapter. Dieu a toujours raison. Donc, si vous avez mal compris quelque chose, acceptez le fait que vous avez mal compris, et puis adaptez à comprendre d'après la vérité. Et puis, comme j'ai dit au début, il faut être prêt à mettre en pratique la parole. Il faut être prêt à obéir à la parole. Et donc ça, c'était la première chose dans le travail de l'interprétation. Il faut avoir cette bonne volonté d'agir selon ce que vous avez appris dans la parole de Dieu. Le second point, c'est une question de chronologie, le temps. En ce qui concerne nous, les hommes, l'humanité, il faut se rappeler que les œuvres de Dieu sont dans le passé, dans le présent et dans le futur. Tout ce qui est dans la parole est pour notre compréhension et pour notre réconfort, mais tout ne nous concerne pas directement. Okay? Donc je vais lire Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, donc, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, par exemple, a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Okay, donc, il y a des choses dans le passé. Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé à Abraham. Donc, Abraham, à un certain moment, il dit, prends ton fils, ton unique, et sacrifie-le sur le mont Marija. Il ne va jamais nous dire ça. Hein, c'était que à lui qu'il a dit ça. Donc ça, c'est un acte dans le passé, dans l'histoire. C'est là pour notre instruction, pour nous donner le réconfort, etc., de savoir que Dieu intervienne, hein, même dans ce genre de choses. Mais ce n'est pas là pour que nous allons tuer nos enfants. OK? Ce n'était pas écrit pour ça. Prochaine chose, c'est qu'il y a une différence entre la signification dans les Écritures et l'application que vous allez faire à votre vie. Hein, parce qu'on a tous des vies différentes, on est dans des circonstances différentes, et on va lire une vérité dans la parole et on va l'appliquer dans les circonstances de notre vie. Chaque Écriture est inspirée ayant un but précis. Notre objectif est de déterminer et de comprendre ce but précis. Nous y arrivons selon les règles habituelles de langage et en dépendance du Saint-Esprit. Il faut donc distinguer entre l'interprétation et l'application. Donc, par exemple, chaque écriture a une interprétation véritable, voulue, donc la raison même que Dieu a inspiré le texte. D'accord? Par exemple, nous lisons dans 2 Pierre 1, chapitre 1, versets 20 et 21. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Sachant tout d'abord, donc il avait dit quelque chose avant, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière ou privée. Donc on n'a pas le droit à nous dire que voilà, c'est un verset dans la Bible et ça veut dire ça simplement parce que je veux que ça dise une chose. Et ça arrive trop souvent qu'on impose notre pensée sur un texte de l'Écriture. Non, il dit, car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a poussé les hommes à écrire les choses, et ces choses étaient écrites avec un but précis. Et c'est cela que nous voulons savoir. Sur cette interprétation, donc la connaissance, la signification exprès de ce texte, nous ferons tous, non, chacun, dans notre contexte, des applications à nos vies, hein, d'après nos circonstances. Les applications ne sont pas inspirées. Comment vous appliquez la parole à votre vie n'est pas inspiré. Le texte est inspiré. La vérité qui est dans ce texte est toujours vraie. Et vous allez appliquer ça dans votre vie. Mais votre application n'est pas inspirée, donc malheureusement, vous pouvez vous tromper. Hein? Et donc, vous pouvez mal appliquer la parole. Ce serait dommage, mais hein, ça peut arriver. L'application doit être bâtie sur l'interprétation. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre la parole avant de commencer à l'appliquer. OK? On va donner un exemple. Tout simple, le fruit défendu dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, que je vais lire. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'est un récit historique. Il relate une interdiction formelle avec la peine conséquente si jamais on transgresse l'interdiction. OK, vous connaissez tous l'histoire. OK? Adam et Ève ont tous les deux transgressé en mangeant le fruit défendu. Tous les deux sont morts spirituellement sur le champ. OK, donc c'était la séparation spirituelle entre eux et Dieu. Donc nous, on hérite de cette nature morte, un esprit mort séparé de Dieu. Puis, des années plus tard, leurs corps sont éteints. Donc là, c'était la séparation entre leur esprit, leur âme, esprit, et puis leur corps qui tombait de l'autre côté. Alors, l'interprétation ou la signification de cet événement ou de presque tous les événements historiques est assez simple. On n'a pas besoin d'élaborer toute une histoire autour d'une histoire. Mais la question est, pouvons-nous appliquer cette histoire à nos vies? Hein, tout le monde connaît cette histoire, mais est-ce qu'il y a une application quand on lit ça dans la parole, qu'on pourrait appliquer ça dans nos propres vies? Donc, je vais donner trois exemples. Le premier exemple est fausse. C'est une mauvaise application. Donc, retenez bien cette idée-là. C'est mauvais. Hein? Et les autres deux sont des applications correctes. OK? Donc, voilà. Première application, la fausse application. Voilà, c'est Ève hein, qui s'était séduite par le diable, qui a emmené Adam à faire la même chose. Et donc, voilà. On devrait faire souffrir nos femmes pour leur part dans la chute de Adam. Non. Mais je vais vous dire, dans la plupart du monde, hein, il ne le dit pas comme ça, mais dans la plupart des cultures, on fait souffrir la femme. Et c'est pour cette raison-là. C'est une mauvaise application de petit peu de vérité qui est restée depuis les générations et les générations, qu'on fait souffrir les femmes. OK? Donc, c'est une mauvaise application de la parole. Il ne faut pas appliquer la parole comme ça. OK? Mais il y a deux autres qui sont corrects. Première de ces deux-là. Donc, nous devons croire Dieu, lui faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. On ne comprend pas toujours, mais Dieu l'a dit. Eh bien, nous devons donc obéir à la parole. Hein? Simplement parce que Dieu a dit de faire comme ça. Parlant du baptême, donc, un pasteur qui m'a critiqué, j'avais dit le baptême par immersion. Et puis il dit, mais comment vous pouvez faire un baptême par baptême? Parce que ce pasteur-là ne croit pas à l'immersion. Il parle qu'il faut faire quelques gouttes sur le bébé. OK? Donc, non. Si la parole dit de se faire immerger, bon, même si on croit comprendre pas toutes les choses, on le fait. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. C'est tout. Ça fait plaisir. C'est comme Jean. Quand Jésus est venu, Jésus a dit à Jean, tu vas me baptiser. Jean a dit, ben non, je ne vais pas te baptiser. C'est toi qui es parfait. Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus a dit, ben non, tu vas me baptiser. Parce qu'il faut le faire pour accomplir toute justice. Donc, par question, Dieu l'a dit, on le fait. OK? Deuxième application correcte. Donc, sachant que le salaire du péché est la mort, nous devons savoir que nos péchés nous rendent coupables et coupent ou abîment notre communion avec Dieu. OK? Donc, en application. Mais bon, je vais au-delà. Je vais lire dans 1 Jean. Vous pouvez chercher, c'est un texte un peu plus long. 1 Jean chapitre 1. Je commence au milieu du verset 3. 1 Jean 1. Verset 3, au milieu du verset. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. OK, c'est là qu'on commence. Notre communion en Jésus-Christ, par le salut, nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils. Ça, c'est une vérité. OK? Et verset 4, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Donc on a lu ça tout à l'heure. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc Dieu a dit que nous sommes tous pécheurs, donc, si nous disons que nous n'avons pas de péché, comme si on était parfait ou quelque chose, eh bien, nous séduisons nous-mêmes, nous mentons à nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Hein? On ne peut pas devenir chrétien en pensant que je ne suis pas pécheur. Hein? On commence en disant, ah, je suis pécheur, j'ai besoin de Jésus pour me sauver. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Ben, Dieu a dit qu'on a péché, donc si on dit qu'on n'a pas péché, c'est qu'on dit que Dieu est menteur. Donc voilà, le péché rompt la communion avec Dieu. Quand on est dans le péché, c'est vrai qu'on a cru en Jésus, Dieu nous a pardonné, on va au ciel, mais on a commencé à faire telle ou telle bêtise, eh bien, il faut le reconnaître à Dieu. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché pour que nous puissions retourner dans une bonne relation ici-bas avec Dieu. Okay? Ça n'a rien à voir avec notre relation éternelle, mais avec notre relation ici-bas. Donc ça, c'est deux applications. On peut voir que, voilà, Adam et Ève ont péché et ça a gâché leur relation avec Dieu. Et quand nous péchons, ça fait aussi la même chose. Ça gâche notre communion avec Dieu. Après, donc, on va voir les règles générales pour la compréhension et l'application de la Bible. Et c'est globalement ce qu'il a sur la petite carte déjà, ok? Donc, première chose, quand on lit le texte dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit? Quel est le texte, ok? Donc, assurez-vous de bien lire le texte. Il ne faut pas lire trop vite, il ne faut pas sauter des mots. Tous les mots sont importants. Si vous lisez mal le texte, vous ne pouvez pas interpréter correctement et donc vous ne pouvez pas appliquer correctement le texte à votre vie. C'est très important de lire bien ce qui est écrit. Après, quand vous avez lu ce qui est écrit, vous devez chercher quel est le sens primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant que j'ai lu le truc, oh, il y a quelques mots là qui sont tous liés ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut réfléchir sur la signification de ce texte dans son contexte. Il ne faut pas sortir des choses et faire dire n'importe quoi. C'est toujours dans un contexte. Est-ce un récit historique, une parabole, une illustration, une prophétie, etc.? Vous cherchez la signification pour laquelle Dieu a inspiré ce verset, dans ce paragraphe, dans ce livre. Et puis, troisième chose, après que vous avez bien compris, comment pourrais-je appliquer ça à ma propre vie? Donc, nous lisons les Écritures pour savoir bien vivre. Une pratique doit être bâtie sur une doctrine. OK? Mais les doctrines ne devraient pas être construites sur nos pratiques. Hein, la doctrine, c'est l'enseignement qui est dans la Bible. On commence là et on construit là-dessus. Donc, il faut faire bien attention de ne pas inverser l'ordre. Autrement, vous faites tout ce que vous voulez et prétendre que Dieu le veut. Mais non, ça, c'est pas honnête. Aussi, et j'avais parlé de ça la première fois qu'on en a commencé à parler de l'interprétation, il y a 3-4 messages, il est important de reconnaître et de respecter l'utilisation des styles littéraires, les allocutions, les expressions qui sont utilisées pour illustrer une vérité. Donc, je vais vous donner quelques-uns sans trop approfondir. Premièrement, il y a les similes. Donc, vous voyez dans le texte « comme ». Ou semblable à. Ça s'appelle simili. Donc, on a un verset qui dit, les justes resplendiront. OK, donc ça, c'est la vérité. Hein? Quand nous serons au ciel, nous allons resplendir. OK? Eh bien, comment? Il dit comme, donc illustration de la vérité, comme le soleil. Donc, nous n'allons pas devenir le soleil, mais nous allons être resplendissants. Aussi resplendissant que le soleil. C'est une illustration. Aussi, il y a des métaphores. Donc, j'ai mentionné ça auparavant. Donc, le mot brebis, le mot porte. Jésus dit, vous êtes mes brebis. OK? On n'est pas des animaux, mais c'est un mot pour dire qu'il y a une bonne relation entre le berger et les brebis. Aussi, Jésus a dit, je suis la porte. Bien sûr, il n'est pas une porte, mais il est l'entrée au ciel. Il n'y a pas un autre. Il y a l'ironie ou le sarcasme. Donc, on a vu ça l'autre jour quand on fait la lecture biblique dans l'Épître aux Corinthiens. Donc, je vais lire un tout petit peu là, dans 1 Corinthiens chapitre 4, mais je vais sauter dans les versets pour raccourcir l'idée. Paul dit aux Corinthiens, mais avec l'ironie ou le sarcasme, donc il se moque de eux un tout petit peu là, il dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Puis plus tard, il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'ai écrit ces choses, donc parce que ça devrait les faire honte, mais ce n'est pas l'objectif. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Quelques-uns quelques-uns parmi vous se sont enflés d'orgueil. Donc on voit que le texte est tout négatif. Il est en train de les critiquer pour les faire revenir à le bon sens. Comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. Okay? Donc là, on a dans Corinthiens, à travers tout le livre, très souvent, Paul utilise le sarcasme, parce que les Corinthiens étaient des chrétiens, c'est sûr, mais ils étaient tout gonflés en eux, et ils faisaient plein de choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Et donc, Paul utilisait cette manière de communiquer pour leur revenir à comprendre la vérité, qu'ils étaient en dehors de la vérité dans leur pratique. Okay? Donc, ça s'appelle le sarcasme. Il y a aussi le hyperbole ou exagération. Okay? Donc, par exemple, il y a un endroit dans Matthieu quand Jésus dit de couper sa main ou d'arracher son œil. OK? Eh bien, c'est un peu troublant. OK? Mais c'est une façon de parler à l'extrême pour qu'on voit que à l'extrême, c'est ridicule. OK? Donc, dans Matthieu 5, verset 29, Jésus dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » OK, ça c'est une partie de ce texte-là. Donc, une personne qui ne reconnaît pas que c'est une exagération, eh bien, elle risque à mal appliquer la parole. Hein? Ça serait grave, n'est-ce pas? Le point d'une illustration, de cette illustration, coupe ta main, se trouve dans le besoin de changer le cœur. C'est le cœur qui est la source du péché. Le point n'est pas de mutiler votre corps. Donc, qu'on coupe les deux mains, qu'on arrache les deux yeux, la convoitise reste où? Dans le cœur. Okay? Il faut naître de nouveau par la grâce de Dieu pour obtenir un cœur nouveau qui va respecter et aimer son prochain au lieu de pécher contre lui. Sinon, sans la nouvelle naissance, on ira dans la géhenne. Donc la géhenne, c'est un mot pour représenter le lac de feu. Et puis, pour terminer, il y a quelques autres symboles, etc., qui sont utilisés dans la parole, et ce n'est pas toujours clair. Donc, si vous n'arrivez pas toujours, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si tout le monde peut arriver à tout comprendre, mais il y a quand même le besoin d'essayer de respecter les choses qui sont dans la parole, les symboles, etc. Mais il ne faut pas vous laisser traîner dans un genre d'occultisme, dans la numérologie et les choses comme ça. Okay? Par exemple, dans certains cas, mais non pas toujours, okay, l'eau ou l'huile peut représenter le Saint-Esprit. Okay? Certains chiffres se répètent, le 6, le 7, le 12, le 40, peut-être d'autres. Le 7 représente ce qui est complet ou total. Le 6 représente l'homme, donc l'homme ultime, c'est l'Antichrist, 6, 6, 6. Le 12 représente les tribus d'Israël, les apôtres. Le 40, c'est intéressant, le 40, ça revient beaucoup. Hein? 40, c'est associé avec le déluge, avec Moïse sur le mont Sinaï, avec les jours d'exploration du pays promis. C'est les années qu'ils ont passées dans le désert. Jésus jeûnait 40 jours dans le désert. Donc ça revient, on ne sait pas toujours pourquoi, mais on reconnaît ça, voilà. Et voici encore d'autres symboles ou images. Donc le roc, qui est toujours Jésus. Okay? La manne, les chandeliers, le pain, la coupe, l'Apocalypse est rempli d'images et de symboles. Un spécialiste, d'accord, il peut approfondir ça. Mais pour nous, juste de savoir que ça existe, ça suffit. Peut-être, si vous, vous avez besoin, vous pouvez regarder dans un dictionnaire biblique, des fois, pour trouver un peu plus approfondi sur certains domaines. Donc, globalement, ce que je vous ai dit, prenez le temps pour bien lire le texte. Prenez le temps pour bien comprendre chaque verset dans son contexte. Puis, ayant compris ce que dit la parole dans son contexte, appliquez ça à votre vie. C'est ça que Dieu veut. Il veut que nos vies soient transformées. Amen. OK. Que le Seigneur vous bénisse.